C'est qui l'invité dans la chemise d'arrivure?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe! C'est qui l'invité dans la chemise d'arrivure?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh non, y'a plus de café là.
Attends, on fait après les papiers, n'est pas imprimé là. Ah,
les jours.
Oh purée,
ce casque qui marche pas. Mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip. Bip.
Bip. Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour. Nous sommes bien le lundi 16 janvier. Bonjour à Gabriel qui nous rejoint pour une semaine, deux semaines, je ne sais plus. Bienvenue à toi. Tout a changé ce week-end. Tout, absolument tout. Avez-vous remarqué comme l'air que nous respirons est différent ? Il est lourd, piquant, et assombrit encore plus nos esprits chagrins. Faut-il, est-il encore raisonnable d'aller faire les soldes avec ce qui nous arrive ? La France. La France outragée, la France brisée, la France martyrisée, mais certainement pas libérée depuis que Standard & Poor's a prononcé son terrible verdict et que la France a perdu sa jolie médaille en chocolat en forme de triple A. Les Mayas auraient quand même pu nous prévenir, hein, quand même, ils sont les spécialistes de la question. Quelque chose me dit que les boucs émissaires habituels ont encore plus de soucis à se faire. Quelque chose me dit que les chômeurs, les RMistes, les écolos, les pauvres, les étrangers, les Français d'origine étrangère vont en prendre plein les dents. Parce que tout de même, si tout le monde bossait, ce cataclysme ne serait pas arrivé. Un commerçant du coin me confiait tout récemment l'air solennel. Je vais vous dire, mademoiselle, pour que la France s'en sorte, il faut que nous nous remettions à produire. Fin de citation. Produire plus pour gagner plus, pour polluer plus, pour stresser plus, pour nous asservir encore plus. Et à ce sujet, ce matin, sur France Inter, l'écrivain Philippe Solers déplorait la lente mais sûre décomposition de la culture des élites et par ricochet des petits sujets du roi républicain que nous sommes. Et Philippe Solers de préciser que nous devenons, encore plus qu'avant, ai-je envie de rajouter, des esclaves techniques et économiques qui ne disent rien, qui ne savent rien. Loin de moi l'idée de défendre à tout craint la culture conventionnelle et officielle, mais avouons tout de même que les débats actuels que l'on ose outrageusement qualifier de politiques rasent de manière inquiétante le plancher des vaches. Peut-être même que nous aussi, sur Radio Saint-Aff, nous perdons de l'altitude. Qui sait ? Mais voilà qu'en bons petits soldats, citoyens et patriotes, nous nous apprêtons à exercer un acte lourd de responsabilité, glisser un petit bout de papier de quelques grammes dans une grosse boîte. Avec une conscience politique vaporeuse, modelée à coups d'annonces gouvernementales en cascade, de rafales de tweets. Alors ce matin, je n'ai qu'une seule envie, me taire. Tiens, tout a changé ce matin.
Good morning, Diane. It's being called the mother of all white.
La bourse a plongé,
dans les poubelles.
Mais sur les yachts, la vie est belle.
La crise.
Heureusement qu'il y a la télé. On a besoin de distraction.
Y a du sexe, du fric, des millions. Et vive la compétition. Dans les écoles et les lycées, les enseignants sont dépressifs.
Les portails filtrent les canifs.
Le gosse de pauvre est impulsif.
C'est la crise.
Ils ont convoqué le G20.
Ça chauffe pour les Iraniens.
C'est la crise. La crise.
Bien que dans les paradis fiscaux,
qu'on trouve ça plutôt rigolo.
La crise. La crise. C'est comme un grand coup de matraque, un vent de folie. Le monde est contraint aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en parlait et qu'on la craignait, elle est arrivée, c'est la crise.
Le pôle emploi est débordé et les patrons sont séquestrés.
C'est la crise, la crise.
Hé, hey, des bonbonnes de gaz sur les toits.
Les ouvriers sont aux abois.
C'est la crise, la crise.
La crise de la compagnie Jolimom, Elsa Gourmand aussi a les yeux écarquillés sur l'actualité. La preuve avec Chou et Fadez.
Chou.
Fadez.
Bah pourquoi Chou?
Bah parce que feuille.
Ah.
Coucou Elsa G. Gourmand, ça va?
Coucou Audrey.
Bébarat.
C'est lundi, c'est dur. Moi aussi j'aimerais bien me taire, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais pour faire la revue de presse, j'ai pas trop le choix. Faut que je cause.
Courage.
Allez, on va commencer avec le tour d'horizon des quotidiens de ce lundi 16 janvier 2012. Alors, rien de bien original. Hein. On s'en doute, la perte du triple A et ses conséquences occupent la une de la plupart de nos quotidiens avec des approches diverses, hein, ceci dit. L'onde de choc de la perte du triple A pour le monde, la crise de l'euro rebat les cartes pour le Figaro, l'austérité en faillite pour l'UMA, les inconnus de l'après triple A pour la Croix, l'Europe déclassée pour les Échos. Libé, lui ou elle, partage sa une en deux. D'un côté, comme de bien entendu, les conséquences de la perte du triple A et les candidats qui en tirent profit. Et puis de l'autre côté, une photo de la prix Nobel de la paix birmane, Aung San Suu Kyi, qui a reçu des mains d'Alain Juppé la Légion d'honneur. Je trouve que c'est toujours mieux de donner cette distinction à une femme comme elle qu'à un Servier, par exemple, copain de Sarko, là, créateur du Mediator.
Ça y est, tu recommences.
Ouais.
C'est reparti.
Faut que j'arrête. Allez, enfin Le Parisien et Le Midi Libre, titre sur le naufrage du Costa Concordia qui a fait naufrage vendredi près des côtes italiennes. Et Le Midi Libre en bonus vous propose le témoignage d'un couple des Pyrénées-Orientales qui était à bord.
C'est fabuleux.
C'est fabuleux.
Vive l'actualité.
Ouais. Allez, une histoire d'oiseau pour continuer qui commence avec des macareux moines, également appelés perroquets de mer, du fait de leur bec multicolore.
Il n'a pas l'air content, hein.
Non, mais c'est le bruit que fait le macareux moine. Mmh. Voilà, ça fait ça. Politis célèbre les 100 ans de la LPO avec la photo de cet oiseau, donc le macareux moine, par qui tout a commencé. Cette année-là, en 1912, une bande de chasseurs parisiens vient prendre l'air et s'adonner au sport de la mort en toute innocence sur l'île du Rouzec, au large de Perros-Guirec. C'est en Bretagne. À l'époque, les chemins de fer de l'Ouest organisaient des safaris pour les habitants de la capitale. Ils les emmenaient par convois spéciaux depuis la région parisienne pour leur offrir des cibles vivantes, beaucoup plus excitantes que les pigeons en argile des baltrapes. Une fois débarqués sur l'île, il n'a fallu à nos chasseurs en goguette que quelques heures pour dézinguer une centaine de macareux moines. Un acte purement gratuit puisque cet oiseau est totalement immangeable. La nouvelle est relayée par la presse nationale et très vite, ce massacre devient un scandale d'ampleur nationale. À cette même époque, la section ornithologique de la Société nationale d'acclimatation et de zoologie avait pris ses distances avec son association mère. Ce petit groupe exige alors que ce type d'exploit soit interdit et donne naissance à la Ligue pour la protection des oiseaux. La LPO est alors dirigée par Louis Magot d'Aubusson. C'était un homme extrêmement réputé. Et donc le préfet du département des Côtes-du-Nord, pour lui faire plaisir, décrète l'interdiction de la chasse sur la petite île, puis accorde à la LPO un bail amphithéotique sur l'ensemble des îles situées au large de Perros-Guirec. Des îles qui à l'époque appartenaient toutes à la Marine nationale. Ces îles deviennent ainsi la première réserve naturelle française. Au début du XXe siècle, la LPO doit avant tout convaincre un monde rural de la pertinence de sa lutte et elle dénonce déjà l'abus des pesticides en usage depuis les années 1870. Déjà.
Sitôt.
Enfin, c'est politique ce qu'il dit. Hein. Aujourd'hui, la LPO a une vision large de sa mission et une longueur d'avance en matière de protection des espèces sauvages. L'association ne dissocie pas la préservation ou la réhabilitation des écosystèmes de la sauvegarde des espèces et fait un travail de terrain qui s'attaque aux pratiques agricoles ou urbanistiques dangereuses. L'association compte actuellement 46 000 membres, dont 5 000 militants bénévoles actifs, et elle emploie 400 salariés. Enfin, son budget annuel tourne autour de 12 millions d'euros. Une belle histoire, non ?
Belle histoire.
D'autres drôles d'oiseaux, les hommes politiques, omniprésents cette période électorale, des candidats qui ont rendez-vous avec l'histoire. Donc c'est un des dossiers que propose le magazine Les Inrecuptibles. Tous les candidats à la présidentielle, note Hélène Fontano, l'auteur de l'article, s'attachent à tisser un lien avec l'histoire de France. En 2007, Nicolas Sarkozy a profondément modifié l'exercice. On s'en souvient, il avait fait appel à Jean Jaurès qui moquait. Tout plein de gens comme ça. Et un exercice qui n'est pas nouveau, ceci dit. J'ai exhumé de nos archives, je crois que c'était en 2010, je ne sais plus bien, l'interview de Guillaume Mazot, historien et membre du comité de vigilance sur les usages publics de l'histoire. Guillaume Mazot qui revient sur ce thème et sur les nouveautés que Nicolas Sarkozy a introduites dans l'utilisation de l'histoire.
En fait, c'est même un classique d'utiliser le passé pour les détenteurs du pouvoir, pour légitimer leur pouvoir. Dès le Moyen-Âge, hein, les références étaient les saints de l'Ancien Testament. Même dans la période qu'on pourrait qualifier de contemporaine, au XIXe siècle, par exemple Louis-Philippe, ça a été un des premiers monarques à vraiment utiliser l'histoire de façon massive pour essayer de rassembler les Français derrière son projet de monarchie libérale. Et d'ailleurs, c'est lui qui a inventé le musée d'histoire de la France, hein, dans le château de Versailles. Et on lit encore sur les frontons, d'ailleurs, à toutes les gloires de la France et donc finalement en rassemblant plein de tableaux, de sculptures, etc., des héros, des héroïnes, des grandes batailles de l'histoire de France. Il voulait utiliser ce passé glorieux, hein, qu'il estimait glorieux, avec des figures comme Jeanne d'Arc, Charlotte Corday, etc., pour rassembler le peuple derrière lui, en fait. Hein. Paradoxalement, d'ailleurs, la construction avant Nicolas Sarkozy la plus aboutie du passé, c'est le roman national de la Troisième République, donc c'est une démocratie qu'il a construite, mais dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai enjeu de souder la nation dans une période où les Français étaient peut-être moins unis qu'aujourd'hui, il y avait un contexte de guerre aussi, d'union sacrée. D'ailleurs, c'est pas inintéressant de voir combien finalement ce roman national, hein, c'est-à-dire nos ancêtres les Gaulois, la volonté des Républicains au début du XXe siècle de montrer qu'il y avait finalement... il existait une nation française qui avait été unie depuis toujours, depuis les Gaulois, et que c'était le même peuple. Eh bien, comment ce roman-là a fabriqué le consentement, hein. C'est-à-dire que c'est au nom de cette histoire, au nom de cette croyance-là, que des centaines de milliers de Français ont accepté de donner leur vie. Hein. Donc c'est pas neutre, l'histoire peut être un puissant terreau pour les politiques. Et juste avant, en fait, Nicolas Sarkozy, aussi bien Mitterrand que Jacques Chirac ont constamment utilisé l'histoire, hein, pour asseoir leur pouvoir. Donc il s'inscrit dans une tradition, Nicolas Sarkozy. Je pense par exemple à Mitterrand, hein, son discours d'investiture en mai 81. Il appelait par exemple aux oubliés de l'histoire, c'est-à-dire qu'il se comparait aux grands oubliés de l'histoire, qui étaient les opprimés, les dominés. Il a cité d'ailleurs Jaurès, le Front populaire. Donc Sarkozy, finalement, il s'inscrit paradoxalement dans une tradition, puisque puisqu'il prétend un peu incarner une rupture. Mais à mon avis, il y a quand même une nouveauté dans l'utilisation de l'histoire de Nicolas Sarkozy. C'est d'abord le contexte. Aujourd'hui, l'histoire est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moteur bien plus puissant qu'auparavant pour les populations, un moteur d'action, de mobilisation. Et d'autre part, il y a une nouveauté dans l'utilisation de l'histoire de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a l'impression quand même que les politiques respectaient plus ou moins certaines fidélités par rapport au passé, par rapport à ce qu'avaient été finalement les grandes figures du passé dont ils se réclamaient. Et là, on a l'impression que Nicolas Sarkozy essaye d'instrumentaliser, de brouiller les pistes en faisant violence au passé, en faisant violence aux acteurs du passé, en les faisant prendre pour ce qu'ils n'étaient pas, et en faisant violence aussi à ceux qui portent leur mémoire parfois. Donc, à mon avis, il y a une nouveauté dans le brouillage de la mémoire, et puis aussi dans la violence de l'utilisation du passé.
Nicolas Sarkozy, qui a quelques mois de la présidentielle, s'est emparé à bras le corps de Jeanne d'Arc. Un choix qui n'est pas anodin. La menace d'un 21 avril à l'envers, c'est-à-dire d'une élimination au premier tour de la présidentielle au profit de Marine Le Pen, pèse sur lui. Alors, les Inroc ont interviewé Nicolas Offenstadt, qui est historien, et celui-ci livre aux Inroc son analyse. Il y a toujours eu un usage de Jeanne d'Arc par tous les bords politiques en France. Depuis 1920, elle est devenue une figure officielle avec la fête de Jeanne d'Arc. En 1929, il y eut la célébration du 5e centenaire de la libération d'Orléans sous le patronage du président de la République Gaston Doumergue. Depuis la fin des années 80, le Front National a organisé sa propre célébration, le 1er mai, pour faire pièce au défilé syndical de la fête du travail. Nicolas Offenstadt ajoute qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait déjà fait de Jeanne d'Arc une arme de sa reconquête des électeurs du Front National. Alors le chercheur porte un regard extrêmement critique sur le rapport à l'histoire qu'a Nicolas Sarkozy. Sarkozy, son idée à lui, c'est de tout mélanger, d'introduire une confusion dans le rapport à l'histoire, nous dit l'historien. Il propose une grande bande dessinée, j'aime beaucoup cette image.
Cette image, oui.
Il propose une grande bande dessinée, une frise historique au service du retour du roman national en politique, qui a trouvé son incarnation dans le ministère aussi unique que scélérat qu'a été le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Et Hollande dans tout ça ?
J'allais te poser la question.
Et Hollande, de quelle arme dispose-t-il sur le terrain de la mémoire et de l'histoire ? Alors la voie est étroite pour le candidat socialiste, analyse l'historien. S'il reprend la tradition de l'histoire socialiste, il va donner l'impression de se réduire à son identité socialiste. S'il joue l'incarnation, le modèle national, la frontière avec les usages de Sarkozy va être extrêmement mince. Et le troisième risque, c'est la soupe, le communisme facile. Alors François Hollande, lui, est un grand amateur de livres d'histoire, notamment sur la Troisième République, et il a déjà son idée sur la question. « Ma démarche, dit-il, c'est de m'intéresser aux personnalités qui ont un message. » Bon, d'accord. « La Révolution française, l'esprit des Lumières, Condorcet, Robespierre, Saint-Just, Ferry, Gambetta. » François Hollande ajoute qu'il existe toute une historiographie de la gauche. Il y a 1848, la Commune en 1871, 1936, mai 68. Au-delà des figures historiques, il s'attache aux grands mouvements. Je pense, dit François Hollande, qu'il faut faire de l'histoire qui réconcilie, qui donne de la fierté, sans oublier les mémoires blessées et les controverses.
C'est beau. Hein,
voilà.
Tu nous rassembles.
Je
ne
sais pas ce qu'ils vont nous sortir. On va.
Moi, je pense qu'il ferait mieux de se taire.
Oui, oui.
Mais, on en revient toujours au même, se taire.
Alors, si vous voulez en savoir plus, entre autres, sur l'utilisation que Sarkozy a faite de l'histoire, Nicolas Offenstadt est l'auteur d'un livre sur le rapport de Nicolas Sarkozy à l'histoire, justement. Ça tombe bien. Ça s'appelle L'histoire bling bling, le retour du roman national. C'est publié chez Stock, c'est paru en 2009. De l'utilisation de l'histoire par les politiques à la décision de légiférer sur cette même histoire, il n'y a qu'un pas que nos politiques franchissent allègrement, avec comme dernier exemple en date la loi visant à punir la négation du génocide arménien. Au moment où le Sénat doit se prononcer sur cette loi, Politis a interrogé un historien, Gilles Manceron, spécialiste du colonialisme français, et un sénateur PS, Philippe Kaltenbach, sur cette question. Alors pour l'historien, c'est une intrusion dans le travail des historiens. C'est confier à la loi la qualification et l'analyse des événements qui sont le travail même des historiens. Gilles Manceron rappelle qu'il existe d'ailleurs déjà une loi datant de 2001 et reconnaissant le génocide des Arméniens dans l'Empire ottoman. Pour lui, cette nouvelle loi est une initiative inopportune qui est totalement contre-productive par rapport à l'avancée nécessaire de la reconnaissance des faits par l'État turc. Pour le sénateur PS, cette loi est justifiée. Pour lui, le texte vise uniquement à protéger les citoyens d'une violente propagande négationniste qui nie leurs droits à la mémoire. Le législateur, dit-il, ne doit pas tolérer que l'on puisse, sur le territoire de la République, impunément nier l'existence d'un crime contre l'humanité.
À l'heure où on parle du Rwanda à tort et à travers, ouais. C'est quand même très drôle. Hein. Mmh. Enfin, drôle. C'est... Je trouve pas...
C'est pathétique.
Pathétique, ouais. C'est ça.
Allez. Virgule. On va terminer avec deux brèves. Alors tout d'abord, cette parole choc de André-Claude Lacoste, président de l'autorité de sûreté nucléaire et auteur d'un audit sur les centrales françaises. Ce monsieur a dit « Nous allons imposer la mise en place d'une force d'action rapide nucléaire pour pouvoir intervenir en moins de 24 heures sur tout site accidenté. »
Ah, ça va mieux.
Wouhou. On est content. Allez, on finit. Dans le courrier des lecteurs de Marianne, cette lettre qui en dit long sur le service public, sur l'état, pardon, du service public de l'emploi et sur la façon dont sont traités les chômeurs. C'est une lettre de quelqu'un qui s'appelle Perrault. Je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur.
Charles.
Vous appelez ça la formation. Alors il raconte, ma belle-mère a 42 ans et demi d'usine. Plus de 190 trimestres de cotisation, 6 enfants, dont 2 à charge. Il lui reste un mois avant sa retraite à 60 ans et 4 mois. Elle est reconnue adulte handicapée à la suite de plus de 40 ans d'usine. Elle ne peut plus porter de poids. Pôle emploi la harcèle, l'oblige à faire une formation en informatique sous la menace de lui couper ses allocations chômage et dernièrement lui a proposé, sous peine de sanction, des places en usine ou un poste de chauffeur poids lourd alors qu'elle n'a même pas le permis. Sans commentaire.
Sans commentaire. Alors, pour nous réjouir un peu plus, le nouvel album d'Erwan. Erwan, donc le chanteur de Java, qui a déjà sorti toute une flopée d'albums en solo. Ça y est, Peau Rouge, le nom de l'album, est enfin dans les bacs. On vous en avait donné un petit aperçu avec le EP, vous savez, la démo. On ne dit plus démo, c'est has-been, le EP. Et là, on vous propose le titre « Le papier d'Arménie ».
Ma souffrance. était Byzance. La brume d'Erevan libère les martyrs, brûle le mystère et la fumée s'enroule aux flammes de l'enfer, les larmes d'Istanbul. Réveille les fantômes, brûle le mystère et la fumée s'enroule aux flammes de l'enfer, des larmes d'Istanbul.
Se met à nous donner des frissons, on va adorer encore plus le papier d'Arménie, donc le nouvel album, enfin le titre du nouvel album d'Erwan qui s'appelle Peau Rouge, un style qu'on lui connaît pas beaucoup, très belle chanson. En tout cas, Chloé, merci Chloé d'être là et merci Chloé d'essayer de nous remonter le moral et de nous faire garder malgré tout la banane.
Tribunal azimuté.
La tribunal attribué.
La tribunal azimuté.
La tribunal azimuté.
Faut toujours garder la banane.
Feu à la nana, c'est la banane, c'est la banane. Qu'est-ce qui donne la pêche à qui l'a pas? C'est la banane et moi j'aime ça.
C'est inacceptable dans un grand pays démocratique que ce soit le président de la République qui s'arroge le droit de nommer le président de la télévision publique.
Messieurs dames, elle vous rendra la vie belle. La banane, la banane, la banane du soleil.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame. Si c'est un cactus, si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris?
Ça voudrait dire quoi? Qu'il faut interdire aux conjoints de responsables politiques d'avoir des activités professionnelles quelles qu'elles soient?
Aujourd'hui, nous avons une exigence de transparence et de réponse par rapport à M. Vers et par rapport à M. Sarkozy aussi. C'est des mœurs dignes d'une république bananière, pas d'un pays démocratique.
Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non. sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi!
Nous sommes en train, oui, de dériver dans une véritable république bananière.
Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane.
Manger la banane, parlez de vous.
Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi.
T'écris de bien loin, de mon île créole. Toi mon petit copain de la métropole. Tu dis que là-bas, l'hiver et le froid te font rêver de mon pays. Alors viens donc ici. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin.
Et la banane, et la banane, de la pêche à qui la part. C'est la banane et moi j'aime ça.
Gardez toujours la banane!
Je pense que Philippe Madziars, notre programmateur musical d'origine viking, est sur le point de clapser hein, avec cette programmation musicale. Chloé, Chloé, fais attention, tu files un mauvais coton. Alors écoutez, là vous êtes certainement en train de rire, de sourire. Alors bon, on va pas quand même abuser. Je vous propose Les Ongles Noirs, L'Ambiance et Glock. Faut revenir sur terre un peu.
J'ai gris. Le décor change, bouge, la roue tourne vite, s'y mêle la pluie. Les talons claquent, le pavé résonne et le zinc, lui. Les rideaux se baissent, les cloches tintent à court, les mauvais esprits, boulevard mélancolie. Tout est rouge, s'excite, compresse et change d'adresse. Les yeux se vident, se chargent de sang, clignotent en feu de détresse. Ils essayent de faire le point, mais les poings ont soif de sang et de caresses. Les mains soudent, les nez se poudrent quand les gardes se baissent. La bêtise monte, les regards s'effrontent, les crânes fuient, les minutes se comptent, la compte les poings. Pour toi, rien. Tout le monde à table, Narcisse s'invite quand le fond se plie, en avoir la fuite, quand le fil se perd, les cœurs se resserrent. Descends les verres, monte au septième. Roule-toi dans l'air, prends-en de la graine. Enfume ton visage, ton regard sage. Poudre ton nez, desserre les dents. Change de paille de temps en temps. Comme tes pupilles, dilate les prends. Bouche à bouche, sirène, coup de couteau. Bouche à bouche, sa nuque, caniveau. Corps à corps, serein, toxico. Tête à tête, fracture, caresse. Et pour œil, pas pour temps. Coude à coude, coup de sang. Coup de boule, coup de poing, coup de main. Coup à goutte, coup de vent, coup de fil, coup d'éclat, coup d'état. Calme.
Mmh.
l'ambiance est glauque. Ma parole, ça finit comme ça, paf, sans prévenir. Les ongles noirs, un deuxième CD de la semaine, avant de passer sans transition aucune avec la chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Voilà maintenant 10 ans que le théâtre de la Doline à Millau a officiellement vu le jour. Entre création, ateliers pour adultes ou enfants et café-théâtre, la Doline continue à proposer des animations de qualité. Jeudi soir, la troupe fait une halte à Sainte-Afrique avec la représentation du Voyageur sans bagages de Jean Anouilh. Denis Psaume est l'administrateur du théâtre de la Doline.
On a choisi cette pièce pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une magnifique écriture. Le Voyageur sans bagages, c'est une pièce de Jean Anouilh, qui était membre de l'Académie française, et c'est superbement bien écrit. C'est une pièce qui demande beaucoup de personnages, et ça tombait bien, on avait une distribution possible, on avait les personnages autour de nous qui correspondaient parfaitement chacun à son rôle. Et c'est intéressant parce que l'histoire qu'a écrite Jean Anouilh est tirée d'une histoire vraie. C'est-à-dire que Le Voyageur sans bagages, c'est l'histoire d'un ancien soldat de la guerre 14 qui a fini la guerre amnésique et il n'a aucune mémoire. Donc il se retrouve dans un asile et dans les années 30, à force de chercher pendant 18 ans, l'asile a trouvé ce qu'il croit être la bonne famille à laquelle appartenait ce soldat. Mais est-ce que c'est la bonne famille? On ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire vraie s'est passée à Rodez, dans les années 30. Vous voyez, c'est tout à fait local en plus.
Les comédiens qui vont jouer cette pièce, qui sont-ils?
Ce sont pour la plupart des anciens élèves et des élèves encore des ateliers adultes, mais des élèves qui ont 4 ou 5 ans d'atelier qui sont très comparables à des comédiens professionnels. Et ils sont de Sainte-Afrique et de Millau, pour la plupart.
Et un petit mot peut-être sur la mise en scène?
Alors la mise en scène est signée par notre directrice artistique, Juliette Atlan, qui fait comme d'habitude, elle privilégie le texte, elle privilégie les comédiens. Il y a des décors qui sont assez simples, mais très évocateurs des années 30, avec les costumes, etc. Et on est dans une mise en scène toujours assez épurée, et qui restitue l'histoire avec toujours le maximum de sincérité et de vérité des personnages.
Combien de temps vous avez mis pour la monter?
Oh, il faut d'habitude une saison pour monter ce genre de spectacle, parce que quand même, il y a 11 personnages, hein, c'est une grosse usine. Hein. Par exemple, il a fallu faire beaucoup de recherches pour trouver les décors, les accessoires qui correspondent aux années 30, quoi. Avec les photographies au mur, les fauteuils, etc., quoi. Et aussi les costumes, c'était pas évident. Donc ça prend beaucoup de temps, il y a de la recherche, il y a de la recherche des personnages, parce qu'on travaille très en amont une pièce de théâtre, c'est-à-dire que chaque personnage se pose la question comment je suis, comment je vis à cette époque, etc., quoi. Quelle est ma place dans la famille, ma place par rapport aux autres. Et donc tout ce genre de questions qui cherchent des réponses dans nos improvisations et tout ça, ça donne, si vous voulez, à la fin, un personnage qui a plus de vérité que s'il était comme ça, sorti du chapeau en 2 minutes, quoi. C'est ça qui semble intéressant. Et quand on est dans le public, je crois qu'on y croit à cette histoire. On y croit vraiment parce que les personnages sont vrais. Il faut pas rater ça. Il y a des comédiens saint-africains. Ça peut donner aussi l'idée à d'autres de se lancer dans l'aventure du théâtre. Parce que le théâtre, c'est vraiment une aventure formidable. Ça permet de lâcher beaucoup de choses, de se découvrir quelqu'un d'autre. Vous savez, le théâtre vous prend et vous rend quelqu'un d'autre. Hein, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se découvrir quelqu'un d'autre. Pour peu que ce quelqu'un d'autre soit son véritable soi-même, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est en même temps qu'un beau spectacle, une belle soirée, une invitation peut-être aussi à participer, à faire du théâtre.
Denis Psaume du Théâtre de la Doline qui vous propose Le Voyageur sans bagages jeudi soir à la salle des fêtes de Sainte-Afrique à 20h30. Et nous avons des places à vous faire gagner. Il suffit comme d'habitude de nous passer un coup de fil. faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. 05 65 49 29 94. 05 65 49 29 94. Il paraît qu'il ne faut pas donner de numéro de téléphone à la radio, mais que voulez-vous ? Pour finir cette émission, un troisième CD de la semaine, Lakey, Reach the New World, c'est électro. êtes bien sur Radio Saint-Afrique, ne vous y méprenez pas. Derrière cette petite musique planante de Lakay, notre troisième CD de la semaine, le débat fait rage au sein de l'équipe de Radio Saint-Afrique au sujet de la Tripounal azimutée et de sa guest star, on peut dire ça comme ça, Philippe Catherine. Philippe Madzière, notre programmateur, est descendu toute sirène hurlante pour nous dire que ce bonhomme, Philippe Catherine, n'a aucun talent, est imbu de sa personne et n'a aucun talent et une sale gueule surtout. Et qu'il est entièrement d'accord avec Éric Zemmour. Éric Zemmour qui, lui aussi, a précisé Philippe, n'a aucun talent, est imbu de sa personne et a une sale gueule. Ce à quoi notre chère amie Chloé a répondu que pas du tout, pas du tout. Philippe Catherine, accrochez-vous parce que là, c'est un concept. Hein. Philippe Catherine, c'est Lady Gaga version Gainsbourg. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Je vous laisse méditer. Merci encore à Chloé à la technique et merci à Chloé pour sa tripounale à la banane. Merci à Elsa Gourmand, merci au Théâtre de la Doline. Merci à notre programmation musicale nirvanesque, on peut le dire. Erwan et son papier d'Arménie, la compagnie Joliment met la crise, Lakay qui essaie de rejoindre le Nouveau Monde et les Ongles Noirs pour qui l'ambiance est glauque. On se retrouve demain à 10h10 ou à 17h10 en rediffusion. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous, j'ai peur, Philippe est rentré dans le studio, il veut parler.
Oui, c'était bien les disques de la semaine.
Allez, salut! Les programmes de la journée sur Radio Saint-Af à 21h, Captain Potager à 22h, Anachronique, à midi, RFI, Agenda et la chemise à rayures, c'est le trio gagnant. À 15h, la tripounale azimutée que vous savez. À 17h, la rediff de cette émission. Vivement ce soir qu'on se couche et maintenant, c'est 12 France.